entendu, moi je suis un oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la vie de l'esprit vivant, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi et bienvenue dans Parole aux auditeurs qui vous propose ce nouveau numéro. Dans son rapport Perspective africaine 2016, la Banque africaine de développement BAD reconnaît la performance économique des pays du continent, y compris celle de la RDC. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, la croissance de son économie a décéléré à 7,7% en 2015 contre 9,2% en 2014, mais une tendance qui devrait se poursuivre en 2016. Avec un rebond de 8% attendu à partir de 2017. Le rapport souligne aussi que malgré la progression observée dans l'indice de développement humain de la RDC, la pauvreté reste largement répandue dans ce pays. Comment commentez-vous cette actualité? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081-890-6315 pour votre intervention en direct. Hippolyte Kapanga est à la mise en onde, Pierrot et Lamégie à la réalisation et au standard de ce programme. Coordonnées présentées par Jérôme Guimbo-Labou, Angie sous la supervision de Martin Sebouk-Jagoué. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, Jérôme Guimbo.
Merci à vous tous pour vos messages. Tony, Platini, Payé, vous avez dit le plus grand problème de l'RDC n'est pas au niveau de la croissance, mais c'est plutôt la répartition de la richesse qui pose problème, car ce sont les institutions étatiques qui restent les grands bénéficiaires de cette richesse créée. Et donc la population ne sent pas cette augmentation. La RDC pourrait atteindre une croissance de 20%, mais tant que cette répartition restera la même qu'aujourd'hui, on sera toujours un pays pauvre, très endetté. Isaac Bamporiki, les institutions financières internationales, pour vraiment aider les États nécessités, devraient subordonner tout soutien à la gouvernance démocratique et à la gestion responsable de l'économie de la part des États à soutenir, sinon il ne s'agit que de soutien au régime. Les nôtres, par exemple, qui est manifestement déterminé à diriger par défi, après avoir marché sur la Constitution en organisant pas les élections, conformément à elle, ne peut aucunement faire de soutien de la BAD ou de tout autre partenaire. Rachel de Kinshasa dit ceci: pour moi, le problème de lutte contre la pauvreté passe par l'investissement dans les petites et moyennes entreprises. L'État congolais devrait permettre au secteur privé de se développer, octroyer des crédits bancaires aux investisseurs locaux, faciliter aux étrangers la création des entreprises de toutes les catégories. Ceci va entraîner l'émergence d'une classe moyenne. Patrick Mboudi de Lubumbashi, ce paradoxe qui s'observe entre cette performance de la croissance économique et la pauvreté de la population est inexplicable. Il est vrai que les institutions financières internationales saluent les efforts du gouvernement, mais l'impact est nul dans le panier de la ménagère. Jojo Kenda de Kinshasa, la pauvreté et le chômage persisteront toujours malgré la croissance économique parce que le secteur extraction, exportation des minéraux qui stimule cette croissance ne peut pas influencer considérablement. Jeff Kabongo, la RDC a tous les atouts possibles pouvant lui permettre d'améliorer la croissance économique. Nous sommes incapables de transformer nos matières premières en produits finis. Et pour finir, Germain Tabassé, on ne comprend pas tout ce qui paraît comme contradiction. L'indice du développement humain ne peut être proportionnel qu'à la croissance économique. Mais quand d'une part la BAD établit un rapport qui relève une décroissance économique d'une année à l'autre, et de l'autre côté, on constate dans ces conditions-là un indice de développement humain positif. En tout cas, cela demande des explications, ou autrement, l'inexplicable ne se justifie pas. Mesdames et messieurs, il faut encore merci de votre fidélité à Radio Okapi. Nous recevons dans ce studio Steve Kivota, cadre du panneau et économiste et des formations. Bonjour Steve.
Juriste de formation.
Voilà, des formations. Alors Steve, vous allez d'après les jeux nous faire établir un peu le lien entre les données publiées par la BAD que nous venons d'évoquer tout à l'heure et la tribune de Adolphe Mousitou, ancien Premier ministre, de laquelle il a aussi évoqué l'idéal pour atteindre un État moderne en relevant bien entendu les défis relatifs à la pauvreté, parce que dans notre pays, au regard, comme l'ont dit certains auditeurs, il y a un paradoxe. d'une part, on parle de développement, l'indice de développement humain positif, et de l'autre côté, la pauvreté qui persiste.
Oui, moi je pense que ces différentes tribunes qui en parlent, il y a la 4e tribune, il y a la 12e tribune actuelle, mais aussi la 10e tribune qui parle du dialogue vertical, ben, au fait, la grande question qu'on doit se poser, et c'est d'ailleurs une des interventions de vos auditeurs, est-ce que le problème de notre pays, c'est uniquement la répartition de richesses qui est mal faite, ou c'est d'abord la répartition de la production qui est mal faite? Parce qu'en principe, on doit savoir qu'un Congolais ne peut bénéficier que de la richesse qu'il a produite. On ne peut pas chercher à ne pas produire et à bénéficier d'une production. C'est dans cette réflexion, effectivement, qu'on doit se poser la question, pourquoi le Congolais ne produit pas assez? Là, nous allons entrer dans la réflexion pour se poser la question quel genre de modèle économique nous avons, ce qui amène aujourd'hui à ce que la croissance puisse décélérer, et ce qui amène finalement à ce que le Congolais puisse vivre dans la pauvreté. Parce que, moi je pense qu'on doit enlever cette idée que la répartition est mal faite, tout simplement parce que, quand on prend, ne fût-ce que le PIB de notre pays, 40 milliards, et qu'on le divise par 80 millions d'habitants, on a exactement 1,4 dollars par habitant. Donc, en principe, même le président de la République vit avec 1,4 dollars par habitant. Je vais un peu trop loin dans la réflexion pour dire que c'est ça la moyenne. Mais effectivement, dans la moyenne de 1,4 dollars par habitant, il y en a qui ont plus et il y en a qui ont moins. C'est-à-dire, il y en a qui ont zéro, il y en a qui ont dans le 2000 dollars par année. Donc, par jour plutôt, c'est 1,4 dollars par habitant, mais effectivement, on doit se poser la question, est-ce qu'avec 1,4 dollars par habitant, par jour, est-ce que c'est une bonne moyenne? D'où l'ancien Premier ministre Mouzito dit généralement que ce n'est pas la richesse qui est mal distribuée, mais c'est plutôt la pauvreté qui est mal distribuée. D'où nous devons chercher à créer de la richesse. Comment créer de la richesse avec un modèle économique? Une économie qui est plutôt, on peut dire, la continuité de l'économie mondiale. C'est une situation que nous avons, c'est-à-dire l'exploitation de minerais aujourd'hui dans notre pays, c'est plus pour servir le reste de l'économie mondiale. Les cobalt, le cuivre que nous exploitons en grande partie, nous ne l'utilisons pas dans notre économie. C'est l'économie mondiale qui l'utilise. D'où, lorsque l'économie mondiale n'a pas besoin du cuivre et du cobalt, il se fait que ce cours de ces matières premières s'abaisse. Et quand ça baisse, les cours de matières premières cobalt, cuivre, pendant que notre économie a 40%, ses recettes dépendent de ces secteurs, c'est tout à fait normal qu'il y ait un impact sur nos recettes fiscales et un impact sur notre économie de manière générale. Mais aussi, ces exportations de minerais, aujourd'hui, c'est plus ou moins 95% de nos exportations, c'est le minerai. Donc, lorsque ces minerais, leur prix baisse et que leur production baisse aussi, ça veut dire que ça a un impact sur nos devises. Parce que lorsqu'on exporte le minerai, c'est à travers ces exportations que nous obtenons le devise en dollars, c'est-à-dire les monnaies étrangères. Mmh. Ce qui veut dire réellement que lorsqu'il y a baisse de cours de matières premières, il y aura toujours un impact sur le franc congolais. Le franc congolais va toujours se dévaluer par rapport au dollar. Donc, nous avons une telle économie, un tel modèle économique. Alors, comment faire pour changer pendant qu'on n'a pas su diversifier l'économie?
Vous venez de la Belgique, où vous avez été reçu, vous avez accompagné d'ailleurs l'ancien Premier ministre, qui a été reçu par le vice-premier ministre belge et ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, au cours des discussions. C'était pratiquement la même chose avec les différents Congolais de la diaspora. En fait, vous êtes revenu sur l'idéal d'un État moderne. Quels sont les défis à relever? Vous avez dit à démontrer les 6 paliers pour y arriver, mais quelque part, vous avez insisté pour... En fait, c'est parmi les propositions aussi faites par la Banque mondiale d'Afrique de développement, qu'il faudrait que la Belgique, notamment, puisse intégrer, ça c'est le plaidoyer fait par le drame de Mouzito, puisse intégrer dans le cadre de son action en faveur de la RDC la nécessité de prendre en compte l'urgence de la crise financière qui risque d'aggraver avec la crise congolaise.
Effectivement.
Alors, ça passera par quelle voie ?
Non, mais effectivement, il y a d'un côté la crise politique que nous traversons, mais de l'autre côté, la crise économique qui prend de plus en plus d'ampleur sur le plan financier. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, la cause de notre crise financière, c'est effectivement la baisse du cours de matières premières, qu'on appelle choc exogène sur notre économie. Mais dans l'entretemps, nous avons comme l'impression que les politiciens sont plus focalisés sur la crise politique, par rapport au respect de la Constitution, ce qui est une très bonne chose. Mais on oublie que dans l'entretemps, lorsqu'on sera trop distrait à ne résoudre que le problème de la crise politique, peut-être avec un simple partage de pouvoir, on n'aura peut-être pas résolu le vrai problème qui est le problème de notre crise économique qui a des impacts sur la crise sociale. Parce qu'aujourd'hui, un Congolais qui gagnait 100 000 francs, eh bien, avant, c'était plus de 100 dollars, et aujourd'hui, c'est moins de 100 dollars. Ça a un problème par rapport au panier de la ménagère. D'où l'honorable Mouzito, l'ancien Premier ministre Mouzito, qui a eu l'opportunité de rencontrer M. Renders, qui est ministre des Affaires étrangères, vice-premier ministre, qui fait partie de la communauté internationale, ancien pays qui nous a colonisés, mais aussi capitale de l'Union européenne. Au-delà de lui parler de la crise politique actuelle qu'on doit nécessairement résoudre à travers le dialogue, mais il a dit le dialogue, c'est aussi l'occasion de parler de problèmes sociaux de la population, mais aussi de problèmes qui traversent notre économie actuellement. Comment nous pourrons les résoudre ? Nous devons nécessairement être...
Comment ça va
voilà, concrètement, c'est quoi ? Nous devons savoir qu'aujourd'hui, on ne peut pas travailler avec le modèle économique actuel que nous avons. Nous ne pouvons pas travailler sans l'appui de la communauté internationale sur le plan financier. Et pour travailler avec la communauté internationale, plus précisément sa façade technique, c'est-à-dire le FMI et la Banque mondiale, il faut nécessairement qu'on soit en programme avec eux. Mais on ne peut pas être en programme avec eux sans que l'on ait un paquet de réformes à adopter et à appliquer. Aujourd'hui, nous, le deal que nous avons fait avec le FMI et la Banque mondiale, c'est-à-dire avec la communauté internationale, c'était d'assainir la gestion de l'État en respectant un certain nombre de principes en matière de transparence, en matière de respect de la chaîne de la dépense, mais aussi en matière de libéralisation de l'économie. Parce qu'aujourd'hui, l'État à pratiquement toutes les entreprises, mais qui malheureusement sont en faillite. On ne peut pas chercher à créer de la richesse en ayant des entreprises publiques qui ne fonctionnent pas ou qui fonctionnent mal, qui ne produisent pas assez, qui vivent d'ailleurs de l'État. D'où toutes ces réformes pour arriver réellement à établir un bon deal avec la communauté internationale, arriver à créer de la richesse, arriver au fur et à mesure à atteindre un niveau de supporter les chocs exogènes, arriver à entrer en programme avec les FMI et la Banque mondiale lorsqu'il y a un choc exogène, qu'ils puissent nous appuyer à travers des appuis budgétaires, avec des devises. Pour le faire, nous devons nécessairement, dans les dialogues, parler aussi de ce genre de questions au lieu de se limiter uniquement au partage de postes.
Voilà. 081-800-9-6-75 pour votre intervention en direct. Séraphin, vous êtes en ligne. Félicien et Jean-Pierre et Sureau.
Parole aux auditeurs.
Dans son rapport Perspective africaine 2016, la Banque africaine de développement reconnaît la performance économique des pays du continent, y compris celle de la RDC. Le rapport souligne aussi que malgré la progression observée dans l'indice de développement humain de la RDC, la pauvreté reste largement répandue dans le pays. Séraphin, vous êtes à Goma. Comment commentez-vous cette actualité ?
Oui, merci, Tonton Pierrot. Bonjour aussi à nos invités. La première des choses, lorsqu'on parle de la croissance, c'est-à-dire il y a l'évolution de la richesse. Et cette évolution de la richesse, l'agrégat économique qui permet de calculer sur le PIB, donc qui est le produit intérieur brut, qui est la somme de la valeur ajoutée. En fait, moi je voulais dire ceci. Est-ce que normalement, nous avons la croissance, et qu'il faut se poser comme problème? Moi je pense qu'il faut se réserver. Pourquoi il faut se réserver? Parce que les institutions étatiques qui peuvent normalement fournir des statistiques fiables de ces institutions étatiques ne sont pas du tout fiables. Ça, c'est la première des choses. Ils ne sont pas équipés pour fournir des statistiques fiables. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses que je voulais évoquer...
Séraphin, quand vous parlez des institutions étatiques, disons à l'interne ou à l'étranger?
Non, effectivement, au niveau d'abord de l'interne, parce que l'étranger se confie aux données fournies par le pays, au niveau de l'interne, n'est-ce pas? Parce que nous avons le service de statistiques. Est-ce que le service est vraiment l'enquête qu'on est en train de mener? Est-ce que les enquêtes sont des résultats fiables pour dire qu'il y a la croissance? C'est ça la première des choses que je voulais parler. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire aussi, à propos de la croissance, si vous parlez le PIB en volume, parce que si on voit la PIB en volume avec l'inflation que vous êtes invité à parler, c'est quelque chose que nous connaissons actuellement. Vous constaterez que même si on acceptait, acceptons qu'il y a eu la croissance, mais si on parlait du PIB en volume, avec l'inflation que nous avons, nous allons vous rendre compte qu'il n'y a aucune croissance. Mais ce n'est pas parce que l'État, moi je voudrais défendre beaucoup plus sur les fonctions régaliennes de l'État congolais. Parce que tout État responsable dans une économie moderne, il a
toujours fonctions régaliennes. Enfin, je ne sais pas, sur le terme des économistes, est-ce que la situation que nous traversons actuellement, on peut parler de l'inflation? On peut parler de la fluctuation de notre monnaie, la dépréciation. Bon, en fait, il y a le débat autour de ça, mais je crois que notre invité pourrait revenir sur ça par rapport à la tribune qui parle de la pauvreté.
Nous pouvons parler. Donc, effectivement, je suis en train de parler. Il y a la dépréciation de l'État, mais cette dépréciation a l'incidence sur l'inflation. Mm-hmm. Mais donc, l'inflation que nous connaissons est le résultat de la dépréciation monétaire.
Mm-hmm.
Allô?
Oui, voilà. Donc, Oui, c'est rappel, vous avez la parole.
Allô?
Allez-y.
Oui, je dis que si. Vous avez posé une question très pertinente à propos de l'inflation. Moi, je dis que si. L'inflation que nous connaissons présentement est la résultat de la dépréciation monétaire. Mm-hmm. C'est l'une des causes de la dépréciation qui a amené l'inflation. C'est la première des choses, c'est la deuxième des choses. Mais moi, ce que je voulais beaucoup plus aborder, c'est de parler sur les fonctions régaliennes de l'État. Parce que dans une économie moderne et développée, l'État a trois fonctions régaliennes. La première, c'est l'affectation des ressources. La deuxième, la distribution équitable des richesses. Et la troisième, c'est la stabilisation de la conjoncture. Mais ce qui doit me concerner aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'affectation des ressources et la redistribution équitable des ressources. Est-ce que réellement, ce que nous produisons aujourd'hui comme ça, ce que les Congolais produisent aujourd'hui, est-ce que c'est redistribué équitablement au peuple congolais? Je dirais absolument non. Donc, il y a des équilibres totales. Combien touche un enseignant, ou lutter contre combien touche un enseignant et combien touche un ministre, tous les distanciés. Mm-hmm. Il y a des équilibres totales.
Voilà, vous avez rejoint notre invité tout à l'heure qui évoquait cet aspect des choses, hein, au niveau de problèmes de répartition et les problèmes de production. Est-ce que c'est le vrai problème de notre économie réside au niveau de la répartition ou au niveau de la production? Alors, c'est le débat tourne autour de tout ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a du mal à relever ces défis de la pauvreté dont parle le tout dernier rapport de la BAD et qui a déjà été évoqué, d'ailleurs, cette question qui a été déjà évoquée par plusieurs fois par des analystes économiques et notamment Adolphe Mouzitou, l'ancien Premier ministre de la RDC. Merci beaucoup. Alors, Félicien, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour Gère, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de Radio.
Voilà, vous venez de suivre Séraphin qui a relevé aussi le problème de la distribution équitable des ressources. Alors quel est votre avis?
Oui, non, moi je veux dire que le problème que nous avons, c'est le problème de la production et de la répartition. Et je voudrais savoir quelle est la production qui est prise en compte dans le calcul de l'indice de développement humain. Celle qui va dans les poches des individus qui nous gèrent, et ou bien celle qui va dans les trésors publics. Parce que nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui de savoir exactement quelle est la production que nous avons dans ce pays. Parce que nous trouvons des individus quand ils accèdent à une fonction et au sommet de la gestion de la République, ils deviennent extrêmement riches en peu de temps. Est-ce que cet argent-là, et puis aussi en compte dans les calculs des listes de développement humain. Et la répartition, quand on a produit par exemple 40 millions et qu'il n'y a que 20 millions qui entrent dans les trésors, la répartition donnerait que les résultats. Donc moi je pense que nous avons un problème de ce côté-là, c'est le problème des antivaleurs, c'est le problème d'hommes. Et tant que nous combattrons pas la corruption, les vols, le pillage et de toutes les non-richesses par des individus au lieu que ça puisse servir toute la communauté, nous ne pouvons pas aller dans ces calculs-là qui ne représentent rien sur le terrain parce que on devait voir plutôt l'indice de développement humain par le niveau de vie que les gens ont dans les pays. les pays de par habitant. Il faut voir d'abord l'espérance de vie à la naissance. Combien de gens qui naissent, qui ont une espérance de vie, qui peuvent vivre combien d'années ici chez nous? Le niveau d'éducation, c'est comment? Comment est-ce que les gens sont en train de manger, de vivre, tout ça? On n'a même jamais résolu les problèmes de manger.
Mais
la question que je pose. Allô?
Oui, Félicien, est-ce que tout cela n'est pas lié aussi à ce manque de coopération? C'est vrai, aujourd'hui, nous parlons de la Belgique. En 90, si notre mémoire est très bonne, on sait qu'il y a eu cette coupure des coopérations. La coopération avec la Belgique, la coopération dont on a longtemps parlé, la coopération privilégiée. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, c'est que nous vivons avec la coupure, disons, les départs, le fait qu'on n'ait pas un programme avec la Banque mondiale ou encore les institutions de Bretton Woods, et cela pose aussi des problèmes sérieux pour que nous puissions relever ces défis de la lutte contre la pauvreté.
Oui, mais je voudrais vous poser la question, quand, excusez-moi parce qu'on ne pose pas la question aux journalistes, mais quand la Chine avait fermé ses frontières et a travaillé, s'est développé aujourd'hui, c'est tout le monde qui couvre la Chine vers la Chine. Et il était avec le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale. Et nous avons cherché l'indépendance pour que nous puissions continuer à dépendre de la Belgique, alors que nous disons que la Belgique a volé nos richesses. Et nous dépendons encore de la Belgique 60 ans après et nos richesses sont restées avec nous. Non, moi je pense que nous devons devenir sérieux. Mais le vrai combat, c'est le combat contre les anti-valeurs. Tant que nous aurons l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, quand l'homme va se mettre sur le droit chemin, c'est alors que nous allons parler de développement. Quand l'invité parle des entreprises,
oui.
Mais il y a eu la réforme des copyrights, mais ça date de quelle époque? C'était pas l'époque où le premier ministre était là. Il y a eu des mandataires qui ont été nommés par sur base de concours. On a déjà fait l'évaluation de ces mandataires, qu'est-ce qu'ils ont laissé dans ces entreprises, ils ont été nommés. Donc, moi je pense que les tribunes sont des bonnes idées, mais je ne sais pas si les premiers ministres m'ont dit de les avoir eu seulement après qu'ils n'aient plus au pouvoir, ou bien ils les avaient avant, pourquoi ils ne les ont pas appliqués. Nous devons insister sur des problèmes d'hommes, nous devons d'abord combattre les antivaleurs, et quand nous combattons les antivaleurs, le développement viendra de lui-même.
Merci beaucoup Félicien. Alors on va prendre Jean-Pierre qui est à Issyro. Jean-Pierre, bonjour.
Bonjour.
Voilà, alors Jean-Pierre, vous avez suivi Félicien qui a évoqué la souveraineté économique d'un État. Je crois que pour lui, le Congo, c'est un État souverain et ne doit pas attendre quelque chose de la communauté internationale. Quel est votre avis?
Oui, je partage d'une part son point de vue, mais de l'autre côté, on doit dire que nous devons commencer d'abord à produire localement pour que notre économie puisse être élevée. Notre pays dépend, je dois dire, à plus de 60% de l'extérieur. Nous achetons tout, même des choses que nous-mêmes ne pouvions produire. Alors, la politique agricole de notre pays devait trouver sa place avec tout ce que nous sommes en train de connaître comme évolution sur les plans de notre budget. On devait affecter une importante partie à l'agriculture, mais on ne donne pas à l'agriculture une bonne partie, alors que c'est prouvé que s'il y a une augmentation de production de 10% et que cela peut traduire une diminution de 7% du nombre de personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Et vous savez que depuis la dernierisation, nous n'avons plus eu le temps de décoller pour que nous puissions arriver à faire une production qui nous permettra de vendre à l'extérieur et d'apporter les devises vers chez nous. Mais nous, tout ce que nous produisons, comme tout ce que nous avons comme devise, nous l'apportons à l'extérieur pour apporter, que ce soit les riz, que ce soit tout ce que nous utilisons dans notre pays. La population qui occupe la grande partie des... donc la population qui vit dans l'agriculture, les pays de son côté, ils ne mettent pas beaucoup du côté de l'agriculture.
Voilà, merci
et
beaucoup.
La production industrielle ou la production agricole, on n'y met pas beaucoup, nous dépendons de l'extérieur. C'est que nous devons mettre beaucoup à l'agriculture pour que nous puissions avoir une production et sortir de la pauvreté et avoir une économie élevée.
Voilà, merci beaucoup Jean-Pierre. Vous avez évoqué là le défi de l'extraversion de l'économie qui voudrait que la RDC consomme ce qu'il ne produit pas. Voilà, donc il faudrait que les analyses qui vont être faites dans ce sens-là puisse donner réellement des pistes pouvant mener à des solutions. Merci beaucoup Jean-Pierre. 081 890 6315 pour votre intervention en direct.
Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capital propose la tribune de la presse. Analyse, explication et débat autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
Je vous remercie de votre fidélité à Radio Okapi, M. Steve Kiwata. Vous avez suivi les uns les autres. Et vous l'avez dit tout à l'heure, il y a quand même un grand défi à relever en ce qui concerne la faiblesse de notre PIB qui s'élève à 1,40$ par jour. Il y a des auditeurs qui ont ajouté d'autres défis, notamment l'extraversion de notre économie. Et je peux encore aller plus loin lorsque je parle de la faillite de l'État aujourd'hui qui n'arrive pas à répondre quand même à certaines obligations. Alors tout ça, à mettre ensemble, on a l'impression que la route elle est très longue pour atteindre quand même l'idéal de développement de notre pays, au regard de ce dernier rapport aussi de la BAD.
Effectivement, la route est très longue, d'où la première nécessité, surtout pour la population, c'est de comprendre avec le politique congolais, les hommes d'État congolais, le problème que traverse notre pays. On doit bien les déterminer pour savoir comment nous devons le combattre. Donc, nous sommes arrivés plus ou moins à se comprendre que dans notre pays, il y a un problème en termes de répartition de richesse, mais surtout un grand problème en termes de production de la richesse. Parce qu'on peut chercher à mieux résoudre le problème de la répartition de la richesse, mais on doit se poser la question comment est-ce qu'on peut le résoudre. Parce qu'aujourd'hui, l'État ne peut résoudre le problème de cette répartition qu'à travers le salarié qui existe. Les fonctionnaires de l'État, ils sont à 1 million. On veut donner $200 à chacun, ça vous fait $200 millions. Mais ça ne sera toujours pas de manière égalitaire. Est-ce que l'État a ses budgets ? On veut réduire les salaires des hommes politiques. Est-ce que ça va résoudre tout le problème ? Or, le vrai problème, c'est notre production qui n'est pas assez par rapport à la hauteur de nos richesses. Mais comment faire pour, effectivement, construire une économie qui puisse permettre à ce que, aujourd'hui, le 60% des Congolais qui ne travaillent pas puissent rentrer dans l'économie pour bénéficier de l'économie. C'est peut-être ça le grand défi. D'où, généralement, l'ancien Premier ministre Mozito démontre qu'il y a une nécessité de mobiliser beaucoup de ressources financières pour construire les routes, pour construire les barrages électriques. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez les statistiques de notre économie, notre ami doit savoir qu'elles ne sont pas très fiables, mais elles existent quand même parce qu'il y a des institutions au niveau international qui travaillent. Vous verrez que le secteur primaire, avec l'agriculture et le minerai, l'agriculture ne contribue pratiquement à rien. Et vous avez encore le secteur industriel qui devait transformer les produits en produits manufacturés qui ne fonctionnent pas par manque d'électricité, par manque de routes. Et d'où le secteur tertiaire avec le commerce, etc., ne peut pas fonctionner avec nos produits manufacturés parce que tout simplement il n'y a pas un secteur industriel. Donc le défi de notre économie, entre autres, comme l'a dit très souvent l'ancien Premier ministre Mozito, c'est construire les routes, c'est construire les barrages hydroélectriques pour créer notre économie intégrée. Parce qu'aujourd'hui nos provinces ne savent pas échanger entre elles. Alors comment est-ce qu'on peut construire ces routes et évaluer plus ou moins 58 000 km de route quand on met par dollar c'est 58 milliards de dollars? Comment avoir les 58 milliards de dollars pour construire les 58 000 kilomètres de route avec notre économie? Est-ce que nous devons attendre que mettre 1 milliard de côté, il nous faudra 58 ans pour le mobiliser? Ou il nous faut effectivement entrer en relation avec la communauté internationale pour les avoir? C'est pas question
de souveraineté.
Non, pas du tout. C'est de la coopération, tout simplement. Même la Chine. Parlons-en quand même. Il faut à un certain moment, lorsqu'on donne des exemples, qu'on les étudie suffisamment. La Chine, personne, on ne doit pas réfléchir dans le sens de dire que toute personne est en train de se courber devant la Chine. Non. La Chine a pu travailler sur l'éducation, c'est ce que nous pouvons faire aussi. La Chine a travaillé sur, on peut dire, la situation, les cadres d'investissement dans son pays. On paye moins en Chine. On paye moins les taxes, on paye moins les salariés en Chine, d'où les grandes entreprises occidentales vont en Chine pour s'installer. C'est le cas chez nous, ça peut être aussi le même. Mais dire que la Chine a travaillé en autarcie, je pense que l'ami doit peut-être mieux se documenter. Donc aujourd'hui, notre pays, nous avons le minerai, le blanc en a besoin, la communauté internationale en a besoin, nous on a besoin de la nouvelle technologie, on a besoin de ressources financières, ils en ont, nous ne devons pas avoir honte d'aller le prendre pour construire notre économie. Les États-Unis qui sont l'État le plus endetté, du monde, c'est aussi l'État le plus riche du monde. La France, c'est l'un des États les plus endettés. Généralement, leur PIB égale leur dette. Donc, nous ne devons pas avoir honte quand nous n'avons pas de ressources financières dont nous avons besoin, quand nous avons besoin de la technologie dont nous avons besoin, nous ne devons pas
avoir honte. En partie, on peut dire que le choix que nous avons avec la coopération privilégiée avec la Belgique, qui, en fait, servait quand même d'un point d'appui pour l'économie de la RDC, les problèmes... est arrivé et puis finalement l'économie était vraiment en ballottage.
Oui. Nous devons toujours avoir ce partenariat privilégié parce que la Belgique c'est l'État qui nous a colonisé, mais ces partenariats privilégiés doivent aller dans le sens de nos intérêts. On doit l'accentuer, on doit mieux définir nos problèmes pour savoir effectivement comment nous pouvons jouer dans le concert de nations. Donc la Belgique, nous devons lui donner un plus grand rôle. Tout simplement, c'est comme ça que la communauté internationale fonctionne. Lorsque un État aura été colonisé par la France...
Il a bénéficié de la commission des commissions de marché de cuivre.
Et effectivement, mais nous devons le faire. C'est comme ça. Il faut savoir qu'un État, c'est un monstre froid. Il ne recherche que ses intérêts. Ce que la Belgique recherche comme intérêt, l'État congolais peut aussi en chercher. Et tout homme d'État congolais doit avoir ça à l'esprit. Donc on ne doit pas toujours se victimiser en se disant que les autres nous dribblent et que nous sommes toujours des victimes. Nous devons réfléchir comment est-ce que nous pouvons obtenir de la communauté internationale.
Donc le rendez-vous du donné du restaurant.
Effectivement, ça doit toujours être comme ça. Donc j'en profite effectivement pour parler de la réforme des entreprises publiques. Cette réforme devait finalement déboucher par une évaluation de nos entreprises. C'est qu'à ses copyrights, pas une conseillère féministe, n'hésitons. On devait évaluer. Aujourd'hui, par exemple, les gens ne savent pas que l'ONATRA, par exemple, actuellement, ne vaut que 15% de ce qu'on a investi quand on a créé l'ONATRA. Et l'ONATRA, qui est une entreprise structurante, parce qu'elle est dans le domaine des transports, elle a un grand impact sur l'économie, ne fonctionne pas. Est-ce que nous devons accepter d'avoir une entreprise qui ne fonctionne pas, mais qui est toujours dans la main de l'État
et qui traverse d'ailleurs des situations très difficiles de la
Ou nous devons, comme effectivement dans la vision qu'avait l'ancien Premier ministre Mouzito vers la réforme des entreprises publiques, nous devons finalement évaluer nos entreprises. Si 15% vaut aujourd'hui 100 millions, on s'est dit qu'on doit augmenter les capitales de l'entreprise, on attrape par exemple, pour qu'elle arrive réellement à exécuter son objet social. Alors, le reste d'argent, le 85% qui n'existe plus, s'il faut réellement que l'on puisse réinvestir, est-ce que l'État est en mesure de donner ses ressources ou on peut rechercher d'autres partenaires? Et comme ça, l'État resterait avec le 15% qui pourrait réellement lui produire peut-être 4 ou 5 milliards de dollars, ou l'État peut accepter aujourd'hui de rester avec le 15% qui ne lui donne rien. C'est une vision que nous devons partager. Nous ne devons pas être souverainistes. C'est dire que non, gardons nos entreprises un peu comme un papa qui a une parcelle, qui n'a aucune maison à l'intérieur, il accepte par souveraineté de garder sa parcelle sans maison, pourtant il peut accepter que les autres viennent construire, et que par la même occasion, l'argent qu'on pourra lui donner, qu'il puisse aussi construire quelques maisons dans sa propre parcelle. Donc c'est un débat de vision que nous devons avoir, je pense que les tribunes, la réflexion existait bien avant. Et... je voudrais terminer effectivement avec la question de l'IDH.
Oui.
On doit savoir que Le lien qu'il y a entre le PIB que nous produisons et l'IDF, c'est que la richesse que l'État produit à travers le PIB est censée être investie ou soit redistribuée à la population à travers l'investissement dans l'éducation, l'investissement dans la santé, à travers la construction des écoles, des hôpitaux. Et ça a un impact sur l'espérance de vie, ça a un impact sur la qualité de l'éducation. Généralement, l'IDH, le niveau de vie de la population, on le voit à travers l'indice de développement humain. Et effectivement, on ne peut pas avoir un indice de développement très positif pendant que la richesse n'est pas suffisamment produite. Mais aussi, la grande question en matière de croissance et de PIB, c'est toujours de se poser la question, la richesse qui s'accroît à travers notre croissance, est-elle la richesse de Congolais ou la richesse des étrangers produisant au Congo?
Parce que alors, le secteur minier... Vous êtes en Europe, vous avez rencontré la diaspora congolaise, qui est aussi un partenaire important dans l'économie de la RDC. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, et aussi les soucis d'investissement qui animent parfois les uns les autres. Nous allons y revenir, le temps de retrouver les auditeurs qui nous ont rejoints dans ce débat, dans cet échange de citoyens. Elie, qui est à Bandaka, au Maroc, et Soumaïli à Lubumbashi, 081-890-6315, pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook, et nous vous signalons que le débat sur notre page Facebook se tient en ce moment. Mais si vous désirez participer en direct, donc vous pouvez composer le 081-890-6315. Alors, dans son rapport Perspective africaine 2016, la Banque africaine de développement, BAD, reconnaît la performance économique des pays du continent, y compris celle de la RDC. Le rapport souligne aussi que malgré la progression observée dans l'indice de développement humain de la République démocratique du Congo, la pauvreté reste largement répandu dans le pays. Ces données ont été également évoquées par plusieurs analystes économiques en République démocratique du Congo ou tout aussi ailleurs. Elie, vous êtes avec nous en Bandaka. Bonjour et bienvenue, Elie.
Bonjour, messieurs journalistes. Bonjour à tous les co-débatteurs sur cette thématique d'aujourd'hui.
Quel est votre avis, Elie?
Ok. Notre pays ne devait que se positionner au sommet le plus haut degré de la croissance économique. Malheureusement, on est dans une gérontocratie gouvernementale. La paix et la sécurité sociale est détériorée et connue. Les droits de l'homme et le partage égal est des fois illégalisé dans notre pays. L'état de droit et l'économie décente pour toute la population ont toujours souffert des actes terroristes et irréversibles. Alors, pour pouvoir dire que notre pays est classé parmi les États de la performance sur la croissance économique, il y a des fois certaines méthodologies que cette banque de développement pourrait prendre en compte. C'est-à-dire, dans notre pays, il y a un problème au niveau des niveaux de vie de la population. Là, on doit d'abord se mettre sur la mesure de conditions d'existence d'un individu. Il est égal au revenu disponible des ménages divisé par le nombre d'unités de consommation, ce qui ne se fait pas dans notre pays. D'abord, l'amélioration du niveau de vie repose sur la croissance. Alors, le pouvoir d'achat de la monnaie se traduit par la quantité de biens et des services qu'un individu peut se procurer avec une unité monétaire. Il détermine d'abord le niveau de vie de cet individu.
Voilà, merci beaucoup, Elie. Je retiens une chose, oui, Elie, pratiquement, bon, c'est vrai, nous n'allons pas, on doit quand même penser aussi à une certaine classe, sinon on risque d'aller vraiment dans les nuages. Je retiens une chose pour vous, l'existence de l'individu, c'est cette capacité qu'a cet individu d'accéder à l'éducation, d'accéder aux soins de santé, d'accéder à un emploi décent. Voilà, donc c'est ce que vous voulez dire concrètement, n'est-ce pas, Elie?
Alors, on dit que c'est pas le produit interne brut, s'il vous plaît.
Voilà, et tout
la même une année
oui.
De la valeur des richesses qui sont produites, c'est-à-dire un territoire national.
Merci beaucoup, Elie. Merci de nous avoir donné tous ces éléments. Merci.
C'est la somme des valeurs ajoutées d'un État.
Voilà, merci de votre contribution, Elie. Dans cette émission, Omar, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, Gilles Ngumbo, bonjour à M. Fils du Watan.
Voilà, Elie, vous avez suivi vos prédécesseurs. Quel est alors votre commentaire? Pardon, Omar, quel est alors votre commentaire par rapport à cette actualité? La BAD qui publie ses données, et ces données ont été également évoquées par d'autres analystes économiques, notamment l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzitou. Il y a Chali, à partir des États-Unis, qui a proposé d'ailleurs le plan Marshall de développement de la RDC, et tant d'autres.
Merci beaucoup, J.A. Duveur, de vous m'adjudiez. Avant tout, je voudrais faire mienne l'approche anthropologique de M. Félicien et de Élie pour dire que c'est l'homme d'abord qui doit être au centre. On a dans ce pays des gens qui sont des docteurs en économie, des licenciés en économie, mais une fois au gouvernement, ils n'arrivent pas à mettre en théorie cette vision apprise. On a également des gens qui ont été aux affaires, une fois n'étant pas aux affaires, qui deviennent donner les leçons, alors qu'il serait intéressant de mettre cette intelligence lorsqu'il gérait. Donc il faut que l'homme d'abord change. Mais par rapport au thème, moi je tiens quand même à féliciter au nom de l'honnêteté intellectuelle les performances. Lorsqu'elles sont citées, il faut quand même le féliciter. Mais Élie doit savoir, je parle de Félicien doit savoir que la souveraineté économique n'exclut pas le réalisme économique. C'est quoi le réalisme économique? C'est vrai que du point de vue économique, il faut d'abord qu'au niveau interne, on puisse bien gérer la bonne gouvernance. Mais il faut aussi qu'il y ait un certain réalisme du point de vue international. On ne peut pas réussir seul. Même les États les plus souverains économiquement aujourd'hui les font. Alors, par rapport à notre pays, je pense que les causes sont très connues. Le problème, c'est que on doit savoir qu'une économie a deux béquilles, la politique budgétaire et la politique monétaire. C'est vrai que les fonds ont été mobilisés auprès des partenaires, c'est vrai également qu'on a quand même une croissance économique, mais quel est l'impact au niveau de la vie sociale des citoyens? C'est ça le vrai problème qu'on doit débattre. Il y a d'une part, on félicite la croissance, mais quelles sont les retombées de cette croissance au niveau de la population? Et qu'est-ce qui fait qu'on ne puisse pas sentir cela au niveau de la population? Moi, je pense que j'y ai, les causes sont connues. C'est un problème de manque de volonté politique, nous l'avons toujours dit. Il y a aussi un problème d'incapacité d'organiser les choses. Comme l'a dit Maître Tissivoite, nous avons un fort potentiel. Mais qu'est-ce qui fait qu'avec des gens que nous avons, qui apparemment étudient, n'arrivent pas à gérer? Il y a aussi un problème sérieux que nous devons dire. L'économie d'un État passe aussi par le fonctionnement des entreprises publiques, qui sont n'est-ce pas les poumons. Est-ce qu'on a évalué, après des 2000 jusqu'à ces jours, on a évalué, est-ce qu'on contrôle comment ils fonctionnent? Il y a un problème sérieux, ils sont devenus presque des canards bottés. Avant 2008, est égal après 2008. Voilà pourquoi je finirai par dire, tout passe par la volonté des bien gérés, qu'on appelle la bonne gouvernance. Les fonds sont mobilisés, bien qu'ils soient minimes. La politique budgétaire voudrait que, à la hauteur des pays que nous avons, à la hauteur des besoins que nous avons, besoin d'éducation, besoin de santé, il faudrait un budget colossal. Et la politique monétaire aussi qui voudrait que l'on ne puisse pas se limiter seulement à tendre la main. Les réalismes économiques, oui, il faut coopérer, mais qu'on ne soit pas trop extraverti ou acculturé, non. Il faut d'abord qu'au niveau interne, qu'on fasse gérer, qu'on prenne des initiatives de production. Quand je l'ai toujours dit, il n'y a pas de développement possible sans production interne. Voilà mes deux petites préoccupations. J'hier, je n'ai pas trop à dire et je vous remercie.
Merci beaucoup, Maître Omar, d'avoir appelé les Kinshasa. Vous évoquez là le réalisme économique. Il faudrait quand même qu'on puisse faire attention sur les causes qui font qu'aujourd'hui notre économie marche à tâtons. Vous avez donné l'exemple des deux béquilles. Hein, on a une économie monétaire et une économie budgétaire. Et à ce niveau, on n'arrive pas, par manque d'une bonne gouvernance, à atteindre vraiment les objectifs escomptés pour atteindre l'idéal, celui de pouvoir renverser la pauvreté. Merci beaucoup, Omar. Soumaïli, vous êtes à Lubumbashi, bonjour et bienvenue.
Merci, bonjour, monsieur le journaliste.
Quel est votre avis, quel est votre commentaire par rapport à la thématique?
Par rapport à l'actualité, moi je me réalise que la BAD nous a flattés parce que l'économie, ce n'est pas une chose fictive. Mais c'est une chose qu'on est en train de vivre, concrète. Notre économie n'a aucune performance, parce qu'elle doit être tâtée par la population, elle doit être touchée par la population. En tant qu'économiste de formation que je vous parle, l'indice du développement humain étant constitué d'un élément capital, qu'on appelle le produit national brut, cela se concrétise par la possibilité de la population à l'accessibilité, à l'école, de sa façon de vivre. Et vous venez de constater avec les autres économistes qu'on apprécie ça, mais en réalité, cela ne se fait pas vivre au niveau de la population. Notre économie, c'est une économie qui vit au sérum. C'est-à-dire, nous sommes à une dépendance très extrême de l'extérieur. C'est pas tout, monsieur le journaliste.
Oui, allez-y, ce baillé.
Alors, il est très difficile de pouvoir apprécier notre économie. D'abord, au pays, nous n'avons aucune entreprise qui est en train de faire une production.
On a brandi qu'on n'a pas fait les élections, on n'a pas organisé les élections parce que le cours minier a chuté. Aucune entreprise congolaise est en train de produire et d'aller vendre le produit minier à l'étranger. Toutes les entreprises qui produisent ici, ce sont des entreprises étrangères. Comment voulez-vous que notre pays puisse avoir des fortunes pour
merci, que vous puissiez garder? Merci beaucoup, Soumaïli. Nous retenons pour vous que l'économie en soi, c'est une réalité. Ce n'est pas une fiction, hein. C'est ce que vous avez dit. Vous avez rejoint concrètement le maître Omar, qui a évoqué aussi cet aspect des choses. Rachel, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue.
Merci, bonjour Gérard, bonjour à l'invité.
Alors, vous avez dit pour vous, les problèmes de la lutte contre la pauvreté passent par l'investissement dans les petites et moyennes entreprises?
Oui, pour moi, Gérard, les problèmes de la lutte contre la pauvreté passent par l'investissement de petites et moyennes entreprises. Alors, l'État congolais devrait permettre aux secteurs privés de se développer, à octroyer des crédits bancaires, par exemple, aux investisseurs locaux, aussi de faciliter aux étrangers la création des entreprises de toutes les catégories. Alors, ceci va entraîner l'émergence d'une classe moyenne. Alors, et c'est de cette façon-là qu'on pourra sentir les effets de la croissance et réduire aussi la pauvreté.
Merci. Merci beaucoup, Rachel. Alors, Maître Sauville, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Zier, bonjour aussi à notre auditeur, bonjour à tous les millions d'auditeurs de la radio Sapi. Allô?
Oui, allez-y, maître Sauville.
Allô? Oui, par rapport à la thématique de monsieur Pierrot et monsieur Zier, moi je dirais ceci. D'abord, que sur base de quels indices on a constaté ce progrès-là? Ça, c'est ma première question. Aussi longtemps que la justice distributive est inexistante. Nous avons depuis cette année la réduction du budget, on a réduit le budget à la baisse. Et nous sommes en train de vivre des mesures impopulaires par rapport à certaines décisions, certains arrêtés qui sont signés par les ministres, entre autres le ministre Baraki, qui a fait la hausse des prix des arrêts de première nécessité. Nous ne voyons pas comment est-ce que cela s'est calculé. Et si nous allons du côté de la ménagère, ça n'existe pas. Toutes les entreprises publiques, en commençant par la GECAMI, la SNCC, la MIBA, l'ECC, sont exclus. Alors moi, j'en pose une question. Comment est-ce que les experts sont arrivés à ce calcul, à ce genre de progrès? Moi, je trouve qu'il y a un contraste très profond par rapport à cette progression et par rapport à la vie que mène la population congolaise pour le moment. Vous comprenez avec moi, M. Pierrot,
Oui, allez-y, Sauville.
Vous comprenez avec moi, M. Pierrot. Il ne suffisait pas de faire seulement le cas de minerai. La République démocratique du Congo a la terre fertile partout. Si aujourd'hui, le Congo se donnait même à l'agriculture, et là où nous avons les gamins verts, le Congo pouvait aller de l'avant. Aujourd'hui, à Lubumbashi, nous vivons encore la hausse de prix à 7 heures de la farine de maïs. La farine de maïs aujourd'hui revient à 17 000 francs congolais. Le cadre de sucre revient maintenant de 35 000 à 100 000 francs congolais. Tout à la mesure populaire du ministre Bahati.
Voilà, je crois que Maître Sauville, je crois que ce n'est pas le lieu pour faire un débat ou personnaliser les débats. Il s'agit des actions du gouvernement, n'est-ce pas? Alors nous ne devons pas réduire ça à un seul ministre. C'est un problème d'État. Même quand nous faisons ce genre de débats, c'est les débats au niveau national. Nous ne devons pas réduire ça aux individus. Nous ne devons pas non plus réduire ça à la plus petite expression. Voilà. Donc, parce que ce n'est pas le problème du ministre de l'économie, c'est un problème de tout le monde qui concerne l'État. C'est pourquoi nous échangeons. Vous, en tant que citoyen congolais, maître Sauville, qu'est-ce que vous proposez? Vous pensez qu'aujourd'hui, on a la facilité, la possibilité d'atteindre une économie, une croissance inclusive? Quel est le sens en tant que juriste, en tant que citoyen? En tant que citoyen congolais, cela passe par quel préalable? Selon vous? Si vous êtes ministre, par exemple.
Nous avons toutes les facilités. Oui. D'abord, nous avons les ressources.
Oui, vous êtes ministre, maître Sauville. Quels sont les préalables?
Oui, j'y arrive. Nous avons d'abord les ressources humaines. Le Congrès, ce sont des peuples intellectuels. Un Congrès, c'est un courageux. Ça, c'est un. C'est deux. Il faudrait que nous basons aussi sur le problème de l'agriculture. Puisque nous avons des petits pays qui connaissent le projet grâce à l'agriculture. À côté de nous ici, il y a la Zambie. La Zambie, grâce à l'agriculture, la population zambienne mène une très bonne vie. Au-delà de ça, il faut introduire la bonne gouvernance. Même par rapport aux apports de nos partenaires traditionnels, la bonne gouvernance, la bonne gestion, et qui est traçabilité.
Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, maître Sonville. Nous revenons à vous, Sylvie Wata. D'abord, une réaction par rapport à tout ce que vous venez d'entendre. On sent qu'aujourd'hui, le vrai problème, c'est à la fois au niveau de la répartition et aussi au niveau de la production. Donc, pour arriver à atteindre ces objectifs, c'est vrai, il y a des piliers, il y a des défis à relever. Et disons, au regard des interventions des uns et des autres, on se rend compte que ça risque d'être un peu difficile d'ici 2020 qu'on puisse réellement atteindre une croissance inclusive.
Effectivement, c'est...
Parce qu'il faut compter avec les problèmes de chômage, c'est pour compter avec les problèmes d'extraversion de notre économie. Mm-hmm. Donc c'est vraiment, on s'engage dans un flou qui nous mettra peut-être dans la difficulté.
Ben oui, la grande difficulté, c'est effectivement notre économie, sa diversification. Comme on vous l'a dit, nous avons deux provinces qui ne savent d'ailleurs pas communiquer entre elles. Et une économie, lorsqu'un investisseur arrive au Congo, il pense avoir 80 millions de consommateurs, mais il ne sait pas comment les atteindre. Donc, le problème d'infrastructure, c'est un problème réel. Quand vous venez investir au Kasaï, ou vous êtes au Kasaï oriental, vous avez des difficultés pour introduire vos produits au niveau de son cours. C'est déjà un problème. Donc, les infrastructures, c'est un grand défi dont a parlé l'ancien Premier ministre Mobutu. L'électricité, déjà ici à Kinshasa, il y a beaucoup de ménages qui n'en ont pas. Et il y a beaucoup d'entreprises au Katanga, de sociétés minières au Katanga, qui ne disposent pas d'électricité pour produire suffisamment. Effectivement, l'éducation, c'est une dépense pour laquelle l'État congolais ne met pas suffisamment d'argent, parce que l'État congolais n'en a pas suffisamment. On va le dire que oui, avec nos ressources, on peut en produire assez. Mais pour en produire assez, c'est toute une vision qu'on doit établir. Dans le problème du Congo, comme l'avait dit notre ami, je pense que c'est un juriste aussi, comme j'ai semblé l'entendre, c'est pas qu'un problème de volonté politique, c'est d'abord un problème de vision politique. Quelle est notre vision? Et en plus, les gens doivent comprendre, parce que au fur et à mesure, les gens pensent qu'on peut changer, c'est que les hommes politiques qui doivent changer les choses. Non. La politique, c'est tout un système. Les hommes politiques, parfois, il faut le contraindre à changer. Il faut créer un rapport de force, il faut créer un système. C'est ce que l'ancien Premier ministre Mobutu appelle le dialogue vertical. On l'a vu avec François Hollande. François Hollande, le Parti Socialiste, a la majorité au Parlement, mais le syndicat de travailleurs, ils n'ont pas effectivement croisé le bras pour le contraindre à modifier une loi de travail qu'il ne trouvait pas, qui n'allait pas dans le sens des intérêts des travailleurs. C'est ça le dialogue vertical. Il faut que des structures, ce qu'on appelle les corps intermédiaires, puissent débattre, puissent se battre avec ceux qui ont le pouvoir pour qu'on crée l'équilibre. Et généralement, c'est ce qu'on ne fait pas dans notre pays. Est-ce que nos partis politiques fonctionnent comme il faut? Est-ce que nos associations, nos syndicats de travailleurs, est-ce qu'ils revendiquent assez? Est-ce que le patronat, on l'attend, c'est parfois, le patronat parle un tout petit peu, rien que la FEC au niveau de l'Assemblée générale, mais est-ce qu'il y a un grand débat entre le patronat et le pouvoir? En Europe,
avec cette affaire de dépréciation, ça a divisé complètement la FEC et le gouvernement.
Ça a divisé, mais ça divise, finalement, on retombe dans les polémiques au lieu d'entrer dans le vrai débat d'idées. Mmh. Aujourd'hui, on devait faire de grands débats, la FEC devait donner sa position, disons le patronat de manière générale devait donner sa position par rapport à la situation politique actuelle, on devait avoir des débats, et les syndicats des travailleurs, oui, on a eu à suivre, mais est-ce que ces débats entrent suffisamment dans le peuple? Parce que le peuple doit avoir ses termes de référence pour savoir aussi comment le pays fonctionne.
Mais vous, l'université populaire, vous avez été à l'Europe. Mm-hmm. Vous avez eu la chance de rencontrer Didier Reynders, le vice-premier ministre belge et ministre des Affaires étrangères. Vous avez été en face
d'André
Solon, et puis vous avez échangé de manière citoyenne avec la diaspora congolaise. Mm-hmm. Aujourd'hui, qui n'est pas négligé, qui participe à l'économie congolaise d'une manière ou d'une autre. Mm-hmm. Alors, quelle a été la quintessence d'ailleurs des échanges avec la diaspora congolaise notamment, qui en fait contribue, en tout cas à plus, sous réserve des économistes, à plus de 20% d'ailleurs de l'économie congolaise?
Ben oui, la diaspora congolaise a ses problèmes à lui, mais aussi la diaspora congolaise subit tout le problème du pays, parce que généralement à Kinshasa et au Congo en général, lorsqu'on a un frère à l'étranger, on pense qu'il a suffisamment de ressources pour nous donner pour qu'on vive. Pourtant, quand nous sommes allés là-bas, nous avons vu une situation tout autre. Pratiquement toute la diaspora congolaise se plaint du fait que elle supporte plutôt toute la crise que traversent les Congolais ici dans le pays. Donc c'est ça la première réclamation. Donc quand les gens souffrent ici, ça a un impact sur eux. Mais aussi, la diaspora congolaise souffre du prix de la douane. Elle considère que la douane est très chère et que finalement, lorsqu'ils doivent envoyer quelque chose au pays parce qu'ils n'ont presque pas du vrai travail là-bas, quand ils envoient quelque chose ici, la douane coûte plus cher que la douane des autres pays. La diaspora congolaise réclame toujours que le décret du Premier ministre interdisant les véhicules de plus de 10 ans...
L'importation des véhicules de plus de 10 ans.
C'est une mesure que nous, on ne comprend pas non plus, parce que un véhicule, c'est pas comme un album d'un musicien qu'on doit renouveler à chaque fois. Vous pouvez avoir un véhicule de plus de 20 ans, mais qui circule bien. Une entreprise, elle n'est pas obligée de produire chaque année de nouveaux véhicules. On a vu des véhicules datant de plus de 30 ans qui sont dans un bon état technique, mais qui fonctionnent. Ils veulent, effectivement, la diaspora veut que s'il y a un problème de technique, un problème d'état technique du véhicule,
Mais le vrai message, ce sont
les réclamations de la diaspora qui sont plus ou moins individualisées, mais notre message...
Mais les tableaux que vous avez présentés,
c'est oui. D'abord, le message, c'était de le ramener vers le débat d'idées. On leur a dit, c'est vrai, ils peuvent ou ne pas être d'accord avec ce Fugère, mais la meilleure façon d'avancer, c'est de contredire ce Fugère à travers les idées et non à travers la violence. Mais on leur a effectivement expliqué que notre pays a des difficultés majeures. Aujourd'hui, les grands défis, les défis de la pauvreté, les défis du chômage, avec 2 millions de Congolais qui entrent dans les marchés de l'emploi chaque année, quelle est cette politique, une fois arrivé au pouvoir, qu'on peut mettre en œuvre pour créer autant d'emplois pour résoudre son problème du chômage? On leur a parlé de ce problème d'infrastructure. On leur a parlé de ces problèmes de notre économie. Effectivement, des problèmes de minerais, que les gens considèrent que la solution pourrait être de les transformer sur place. Mais qui vous dit que quand vous allez transformer les minerais sur place, vous aurez suffisamment d'acheteurs sur le plan national? Est-ce qu'on peut suffisamment produire de cuivre, les transformer ici? Qui vont les acheter? Les acheteurs sont ailleurs. Donc il faut réellement bien définir le défi, on leur a expliqué, et l'ancien Premier ministre
On va poursuivre en laissant Bruno de rappeler aux autres qu'ils peuvent contacter cette émission au 081 800 90 63 15 pour les interventions directes.